RFI.
Alors, on dit quoi ?
Salam alaikum, c'est Diara. Les questions de changement climatique sont à l'ordre du jour dans Alors on dit quoi ? Avancée du désert, érosion, inondation ou encore augmentation de la chaleur sont bel et bien des phénomènes palpables dans le monde entier. Ces situations se présentent comme une préoccupation mondiale. Pour Alors on dit quoi ? Il s'avère donc nécessaire d'inciter à l'action et de favoriser l'esprit d'initiative des jeunes aux questions environnementales et climatiques. Nous irons à N'Djamena, au Tchad, dans quelques instants où nous verrons quelle est l'implication de la jeunesse concernant ce fameux réchauffement climatique. Notre émission vous propose aussi de découvrir le portrait de Boubacar qui installe des clubs pour sensibiliser la jeunesse à ces questions de climat. Et enfin, place à Johan qui vous donnera des conseils pour épargner un peu de sous. Anna vous présentera une expo en Guinée et Valdez vous démêlera une nouvelle infox qui a circulé sur internet au sujet du Bénin. Voilà, il y a trop de choses à faire, donc ne perdons plus de temps. On démarre de suite à Tignodem, c'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Diara Ndiaye.
Nous parlons climat et précisément changement climatique. Les réserves en faune et en flore s'épuisent, l'eau manque chroniquement, les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus nombreux. Une situation qui pose question au niveau des conséquences de ce phénomène en Afrique. Et pour en parler avec moi en studio, Dougoukolo Oumar Kounaré, président de l'association Kissal.
Bonjour.
Il y a également Aziz Ouedraogo, qui est lui ingénieur et polytechnicien en risques environnementaux.
Bonjour.
Et Ibrahim Diallo, étudiant en droit, mais aussi membre fondateur de l'association ACOREC, Agir contre le réchauffement climatique.
Bonjour.
Également en ligne avec nous depuis Dakar, Mamadou Baldé, qui est fondateur du Média Vive Afrique.
Bonjour.
L'Afrique est à l'origine d'environ 4% des émissions de CO2 mondiales, alors que les pays industrialisés en produisent 80%. C'est le continent qui pourtant en paie le prix le plus dur. Les jeunes de ce monde et principalement les Africains ont leur mot à dire quant à l'avenir de l'humanité, non seulement en raison des futures incidences attendues, mais aussi parce que leur créativité, leur capacité à formuler et à proposer des réponses, ainsi que leur détermination sans faille, pourra faire toute la différence. Illustration au Tchad avec notre correspondant sur place, Junior.
À l'instar des autres pays de la planète, le Tchad, situé en plein cœur de l'Afrique centrale, n'est pas exemple du dérèglement climatique dont on ne cesse de parler depuis quelques années. Une situation qui est encouragée par l'activité de l'homme sur l'environnement, explique Joël Yodeman, président de l'association Espace Vert du Sahel, une association des jeunes qui milite en faveur du développement durable.
Quand on parle des facteurs qui favorisent le réchauffement climatique, c'est de voir les activités en fait qui causent en fait l'émission des gaz à effet de serre. Donc ces gaz à effet de serre, c'est comme nous avons par exemple le dioxyde de carbone, le CO2 qui est dégagé par la combustion des fossiles ou bien quand on brûle du bois, et nous avons aussi d'autres gaz à effet de serre, par exemple les gaz fluorés qui sont dégagés par nos climatiseurs, les frigos, ou bien il y a aussi le dioxyde d'azote qui est dégagé par les engrais, et nous pouvons aussi citer le méthane, par exemple, qui est dégagé par les bouses des vaches et des ovins aussi. Donc, les facteurs qui cause le réchauffement climatique, ce sont principalement les activités qui favorisent en fait l'émission de ces gaz à effet de serre.
Dérèglement climatique ou changement climatique, en tout cas une chose est sûre, ce phénomène a un impact réel sur la vie de la population.
Cela amène les gens à changer leur mode de vie. Imaginez des villages de pêcheurs qui en 10 ans sont obligés de devenir des agriculteurs qui deviennent des éleveurs et des éleveurs qui sont obligés par exemple de migrer vers d'autres zones plus propices, et nous sommes au courant de tout ce qui se passe en fait comme conflit que ça génère, les conflits agriculteurs éleveurs qui est aujourd'hui l'un des problèmes les plus sérieux ici au Tchad.
Des conséquences qui sont aussi observables sur la vie des éleveurs, notamment la population nomade. Indou Oumarou est la coordinatrice de l'association des femmes peules autochtones du Tchad. Elle est au micro de France 24.
Nous sommes affectés de deux manières. Tout d'abord, l'environnement où nous vivons
se dégrade de jour en jour. Alors c'est l'avancée du désert, c'est la désertification, c'est aussi le changement des saisons qui se bat sur nous dans les saisons de pluie qui sont de plus en plus courtes et des pluies de plus en plus violentes qui font des inondations où on ne connaissait pas. Et là, ça fait la raréfaction des ressources naturelles et ça change des trajectoires de déplacement de communautés à la recherche toujours de l'eau et du pâturage et ça engendre des conflits intercommunautaires entre les populations qui sont sur place et nous, les nomades.
Pour limiter les dégâts du changement climatique, l'association Espace Vert du Sahel a créé des clubs de jeunes dans les différents établissements d'enseignement de N'Djamena. La mission de ces clubs, informer les jeunes sur les risques du dérèglement du climat. En 2018, ces jeunes ont représenté le Tchad à la COP24 en Pologne. À 12 ans, Kelly Oura Patrick fait partie de ces jeunes. Elle nous parle ici de l'impact de ce phénomène sur les enfants et les jeunes du Sahel.
L'impact du changement climatique d'abord sur les enfants du Sahel et précisément du Tchad, ça se manifeste de plusieurs manières. Il y a sous le cadre de la sécurité, par exemple les enfants du Bol, le lac Tchad. Avec le réchauffement climatique, le niveau d'eau diminue et ceci laisse un passage pour les Boko Haram. Et ça touche vraiment les enfants parce que le Sahel souffre vraiment des actions terroristes. Et aussi sous le cadre de l'alimentation et aussi sous le cadre de la biodiversité. Parce que là-bas, au lac Tchad, il y a une variété de bœuf très rare appelée le bœuf curry. Et c'est de ce bœuf que les habitants du Bol tirent le lait pour nourrir avec les enfants. Mais plus le réchauffement climatique avance, ces bœufs disparaissent en fait.
Le changement climatique s'est déjà imposé et la situation risque d'être grave si les populations ne prennent pas conscience. C'est ce que laisse entendre le président de l'association Espace Vert du Sahel.
Il faudrait que, franchement, que nous réveillons parce que c'est un problème qui nous touche tous. Au-delà de ça, les températures sont en train de monter. Chaque année, la température monte. Et si nous ne faisons rien, si nous continuons à polluer notre environnement de la sorte, nous allons arriver à des températures létales. D'ailleurs, ici au Tchad, nous sommes en mars, hein, d'ici entre mars et avril, les températures dépassent les 45-50 degrés. Et à 50 degrés, beaucoup d'êtres vivants ne supportent pas cette température. Donc imaginez un peu si cette température continue à monter, elle va continuer à monter jusqu'à arriver à un niveau où nous ne pourrions plus supporter. Et il y aura aussi une accélération, par exemple, des phénomènes climatiques extrêmes, hein. Beaucoup de cyclones, beaucoup d'ouragans, des inondations. Il faudrait vraiment que les populations essayent de prendre conscience que nous obligeons nos gouvernants à intégrer dans leur politique le concept vraiment du développement durable.
La lutte contre le changement climatique n'est pas l'affaire d'une catégorie de la population ni celle d'une communauté quelconque. C'est un combat qui concerne tout le monde car l'avenir de la planète Terre en dépend.
Un avenir dont on va parler ici avec nos invités. Alors, Mamadou Baldé, qui est en ligne de Dakar, comment vous réagissez à ce reportage ?
Eh bien, moi, je trouve ce reportage très, très instructif. Il y a là des personnes interviewées qui prennent la mesure du danger que représente le changement climatique. Et ils ont bien compris que le climat est un bien commun global et que agir localement, en un seul point, même si c'est ce qu'il faut faire, ne suffira pas. Il faudrait une coordination au niveau mondial pour que des gens qui polluent d'un point A, peut-être très distants d'un point B, sachent que leur pollution, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a un impact réel sur les vies d'êtres humains, mais également toute la biodiversité. J'entends tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, par rapport aux pressions que cela a fait sur les ressources naturelles.
Dougolo, que vous inspire ce reportage, vous ?
Alors, j'ai été vraiment marqué par les propos de Hindou Marou Ibrahim, que je connais très bien. Je pense qu'une chose importante qu'elle a dite, c'est les problématiques des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, au Mali, d'où je suis originaire, et je pense que peut-être je peux vous donner une petite étude de cas, très rapidement. On se rend compte, par exemple, que dans la région de Mopti, qui est une région lacustre, une région aussi où le delta du fleuve Niger est présent, c'est vraiment une régions où les communautés arrivent chacune à vivre avec une espèce d'équilibre. Donc les éleveurs peuls, les pêcheurs bozo et les agriculteurs dogons notamment. Mais avec les dérèglements climatiques, on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Ce n'est pas tant la question de l'assèchement perpétuel dans le tableau classique qui est présenté. Il y a des parties de ce Sahel qui a même reverdi, visiblement. Mais ça crée de nouvelles envies d'exploitation. Et comme les gens ne sont pas sûrs de ce qui peut se passer dans l'avenir, donc chacun essaie vraiment d'augmenter ses sources de production afin de se prémunir dans un futur. Et ça crée malheureusement des frictions.
On va parler justement des conflits, on va revenir bien en détail justement sur les conséquences bien sûr de ce changement climatique. Juste avant, on va recueillir le point de vue d'Ibrahim. On est bel et bien dans ce cas de figure, dans ce réchauffement climatique comme on l'a montré dans ce reportage.
Moi je trouve que c'est que on décrit dans le reportage, en fait c'est quelque chose qui se constate un peu partout en Afrique malheureusement, et si nous prenons l'avancée un peu du désert, ça se constate en Guinée vers la partie nord à côté du Mali, et les gens qui vivent essentiellement de l'agriculture, ils n'arrivent plus à avoir de quoi vivre parce que tout simplement il ne pleut pratiquement plus, et tout ça modifie leur comportement et leur façon de vivre, et ça augmente un peu l'exode rural, et ça fait que maintenant à Conakry, les gens, tout le monde veut venir à Conakry alors que y a pas de place pour tout le monde. Donc le réchauffement climatique, ça se constate malheureusement un peu partout en Afrique.
Et Aziz, vous qui êtes justement polytechnicien en risques environnementaux, comment on pourrait expliquer simplement le réchauffement climatique à nos auditeurs?
Alors ça a été dit hein, avant moi. Enfin, je pense que effectivement, avec l'augmentation, on va dire, des gaz à effet de serre, l'émission, c'est principalement en fait la première cause qui va influer en fait notamment sur l'augmentation, en gros, on va dire, des températures en Afrique. Le réel problème en fait qui se pose suite à ça, c'est comment permettre en fait aujourd'hui au continent africain de s'industrialiser, parce que c'est un continent qui est en retard par rapport au reste du monde entier. Leur donner le moyen effectivement de rattraper le reste, on va dire, du monde, mais tout en leur permettant effectivement de pas augmenter ces gaz d'émissions de serre ou voilà.
Donc en prenant en compte tout cet aspect développement durable.
Exactement.
Et propre.
Voilà.
On a des commentaires qui nous sont arrivés sur notre page Facebook de Gokolo par exemple. On a José Kijaja qui nous dit qu'il est déplorable qu'on constate que l'Afrique n'est pas assez impliquée pour éradiquer cette problématique. Et il nous dit que c'est le cas de son pays en République démocratique du Congo, où, je cite, il déplore la déforestation continuelle. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est en éveil sur ces questions?
Bon, je pense que le problème est assez complexe dans la mesure où il y a des rencontres africaines, il y a des chartes, des traités aussi qui sont signés. Par exemple, pour ceux qui concernent le pastoralisme, il y a eu les travaux de Nouakchott en 2013 qui devaient permettre notamment aux États d'avoir chacun une trajectoire pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir faire face aux risques nouveaux qui apparaissent. Mais si l'application ne se fait pas sur le terrain, alors dans ce cas-là, on a un autre problème. Et je pense que l'un des enjeux du futur pour ces questions de réchauffement, mais aussi de manière générale pour toutes les problématiques partagées par tous les pays, ce sera lié à l'intégration africaine, à la capacité vraiment au continent d'avoir une politique et de vraiment la défendre, d'avoir par exemple des zones consacrées à un seul type de production afin de pouvoir nourrir tout le monde.
Ibrahim, on a par exemple Baldé Abdoul qui partage un petit peu le point de vue de José que je viens de citer, et lui il ajoute qu'en Afrique les dirigeants ne pensent pas au climat. Alors on a Dougou Kolo qui nous a cité des traités, donc ça c'est au niveau des États. Est-ce que les citoyens, eux, vous les sentez impliqués par exemple en Guinée?
Il y a des beaux textes et tout. Le problème en Afrique, c'est qu'il y a un manque de suivi en fait au niveau des États. Et pour ce qui est des citoyens, les gens essayer de faire leur part, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas tellement de moyens pour faire des choses énormes. Par exemple, chez nous en Guinée, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont constitués en des associations comme la nôtre. Nous essayons un peu de sensibiliser les gens sur les enjeux du réchauffement climatique et tout, mais malheureusement, par manque de moyens pour l'instant ou manque de financement, nous n'arrivons pas à avoir quelque chose de grandiose, mais nous espérons qu'avec le temps et tout le monde va nous suivre.
Qu'est-ce que vous faites au niveau de la sensibilisation? Donc c'est la CORREC, agir contre le réchauffement climatique.
Pour l'instant, nous avons essayé de sillonner plus de 5 écoles dans la capitale.
Donc vous ciblez les étudiants?
Les étudiants surtout pour l'instant.
Et les élèves?
Pour l'instant, c'est les élèves. On a essayé d'aller dans 4 collèges et lycées pour essayer de les sensibiliser sur les enjeux de réchauffement climatique. Et en ce moment même, le président de notre association, pardon, il participe dans un grand festival organisé à l'Abbé, l'une des grandes régions de la Guinée. C'est le festival phare. Mm-hmm. C'est art et rire et tout, mm-hmm. qui, dont le thème porte sur l'écologie et tout. Mm-hmm. Donc nous comptons sur ce grand festival, vu qu'il y aura beaucoup de monde, pour essayer de sensibiliser les gens sur les enjeux du réchauffement climatique et faire des tournées au sein de un peu partout dans la région.
D'accord. Pourquoi vous sentez impliqué par cette cause?
Par cette cause, parce que je me dis que c'est comme si vous demandiez à un étudiant en droit de faire la classification des normes dans un pays. Et vous direz directement au sommet se trouve la Constitution. En ce moment, il y a beaucoup de luttes. Il y a la liberté des femmes, la liberté de religion et tout. Mais je pense qu'au niveau de toutes ces luttes-là se trouve le réchauffement climatique. Parce que là, c'est de notre survie qu'il s'agit. En fait, ce n'est pas qu'une cause qui concerne une seule partie du globe, mais c'est une cause qui doit concerner tout le monde.
Oui, et il y a beaucoup de gens qui agissent. On a notamment le cas de Mamadou, qui a fondé, lui, Vive Afrique. Mamadou, parlez-nous justement de ce projet.
Alors, Vive Afrique, c'est un média qui porte sur le développement durable et l'environnement que j'ai lancé en juin 2015, quelques mois avant la COP21 à Paris. Et nous faisons focus sur le changement climatique, les innovations en Afrique, les énergies renouvelables, les objectifs de développement durable, entre autres grandes thématiques que nous abordons. Parce que nous pensons que tout ceci est lié et qu'on ne peut pas parler uniquement des changements climatiques sans pour autant en parler des ressources de l'autre côté des nations. En Afrique, par exemple, la majorité des pays sont des pays sous-développés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour une large part, ils n'ont pas les moyens de leur politique, y compris les politiques environnementales. Il faudrait peut-être voir comment rééquilibrer cette tendance, comment partir de propres ressources pour gérer l'éducation des populations, l'éducation environnementale, j'entends. Et je pense que c'est là où il faudra appuyer, c'est là où il y a réellement un manque à gagner. Et c'est pour cela que j'ai lancé Vive Afrique, pour contribuer un tout petit peu à l'éducation des masses par rapport à toutes ces alertes relatives à la destruction de la planète entre guillemets.
Et Mamadou, ce qui est intéressant, c'est que Vive Afrique cible les particuliers sont concernés, mais vous estimez aussi que les entreprises doivent agir.
Tout à fait. Les entreprises doivent être responsables. Aujourd'hui, on grandit un peu partout dans le monde le concept de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais de plus en plus, on voit des entreprises africano-africaines qui sont également en train de s'impliquer dans cette démarche. Mais ce n'est pas une grande part. Cela reste une infime part. Et il faudrait que toutes les entreprises y travaillent. Mais de l'autre côté, il faut qu'également les États prennent à bras le corps
le concept de la
responsabilité. Et cette problématique, elle n'existe pas dans nos lois, malheureusement. On n'en parle même pas.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises peuvent allier économie et écologie. C'est le cas de vous, Aziz. Vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Smart Burkina. Elle propose l'utilisation d'énergie photovoltaïque. Alors, expliquez d'abord à nos auditeurs ce type d'énergie. Et ensuite, dites-nous pourquoi son utilisation est importante pour un pays comme le Burkina.
Alors, pour résumer, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit que les gouvernements ne s'intéressent pas forcément au changement climatique, le problème, il est mal connu dans le sens où, effectivement, quand on dit à un pays, il faudrait peut-être voir pour régler vos problèmes climatiques. Le gouvernement, comme on dit, ils ont tendance à dire, attendez, on veut d'abord appuyer la population, on veut d'abord nourrir les gens, on veut d'abord s'industrialiser. Les questions climatiques, on verra plus tard. Concrètement, si on arrive à leur prouver qu'en fait, en essayant d'abord de régler le problème du changement climatique, c'est-à-dire peut-être par du reboisement, ce qui va déjà, on va dire, freiner la désertification, augmenter peut-être déjà la pluviométrie, on arrive à ce moment-là déjà à avoir, on va dire, en termes de production agricole, de la matière pour alimenter la population. Donc à partir de là, déjà, il y a un peu moins de misère, ce qui permet aussi à la population de penser peut-être à autre chose. Donc, tout pays qui essaye de s'industrialiser passe forcément par la manière avec laquelle va produire de l'énergie. Parce que c'est ça aujourd'hui, en gros, qui consomme et qui pollue beaucoup. Moi, mon pays, par exemple, le Burkina, on n'a pas de mer. C'est vrai que toute la production d'énergie, elle est forcément fossile. Donc, le photovoltaïque aujourd'hui, avec la lumière du soleil, on va arriver à produire de l'énergie. Et cette énergie, du coup, sert à alimenter, on va dire, que ce soit les entreprises, les particuliers, à faire tourner les usines, finalement. Et nous, derrière Smart Burkina, en fait, c'est des systèmes un peu innovants, par exemple, qu'on a mis en place. On a pensé un peu à l'après, dans le sens où le photovoltaïque aujourd'hui, pour fonctionner, par exemple, a besoin de batteries solaires. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui n'est pas taillé, par exemple, pour recycler aussi les batteries. Parce qu'on parle d'énergie renouvelable, mais on ne pense pas forcément à l'après. Donc c'est un peu le même problème en France aujourd'hui du nucléaire, où on se retrouve avec peut-être des déchets, on ne sait pas trop quoi faire. Donc nous, on a déjà pris le pas dans le sens où on propose en fait une innovation qui permet par exemple de retraiter, de régénérer les batteries dès qu'elles arrivent en fait en fin de cycle de vie. Donc l'idée, c'est d'avoir évité de balancer des batteries dans la nature, que ce soit pour la nature ou même économiquement, pour permettre en fait aux acteurs de ne pas dépenser, on va dire économiquement, à tout temps dans les batteries quoi, ou dans les installations photovoltaïques.
Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a parlé du volet économique avec les entreprises, les citoyens qui mènent des projets en place, comme c'est le cas de vous, Ibrahim. On parle à présent des conséquences plus approfondies, dont a un petit peu parlé tout à l'heure Dougo Kolo, notamment au niveau des conflits. C'est un petit peu ce que fait votre association, votre ONG plutôt ?
Exactement. Alors nous, on a été créés suite au constat suivant. Les querelles entre agriculteurs et éleveurs sont en train d'augmenter. Parce que avec les changements climatiques, avec l'érosion, la désertification, les pasteurs sont obligés d'aller dans de nouveaux territoires où ils ne se rendaient pas avant. Donc on voit de plus en plus vers les pays côtiers de l'Afrique, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, de plus en plus de troupeaux qui viennent. Et ces troupeaux en venant, font des dégâts dans la nature. Mais ça, c'est parce que on n'a pas considéré l'élevage comme un moyen de survie qui soit capital. Dans un pays comme le Mali, l'élevage est la troisième source de richesse, après l'or et le coton. Donc on devrait quand même avoir en place des trajets bien balisés, avec des puits, des forages qui permettent aux pasteurs de se régénérer, ainsi que les bêtes. Et on devrait aussi avoir des agents pour exécuter la loi chaque fois qu'il y a des problèmes. Mais avec la mauvaise gouvernance, l'absence de l'État, on se retrouve dans une situation où, dès que il y a un conflit entre un agriculteur et un éleveur, ça peut très vite déraper et donner lieu à des morts. Et ça, ça crée aussi des déplacés qui vont dans les grandes villes. Et c'est aussi, malheureusement, on doit le dire, l'une des sources indirectes de toutes les radicalisations.
Oui, tout à l'heure, dans le reportage, on a parlé de Boko Haram,
c'est
Moussad, effectivement.
Qui sont très opportunistes, ces organisations-là, et qui, en fait, ciblent les populations qui ont le plus de griefs à travers, envers leur État et envers leurs voisins.
On parle des États depuis tout à l'heure. On a vu récemment qu'il y a 17 pays de la bande sahélienne qui ont validé un plan d'investissement climatique de plus de 350 ou 400 milliards d'euros sur 12 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les États et la communauté internationale ont suffisamment pris la mesure des enjeux, Ibrahim ?
Si je me fie sur ce que je regarde à la télé, je vois tout le temps des débats sur la question, je vois des sommets, mais le problème, comme je l'ai dit, c'est l'applicabilité de ces traités ou de ce qu'on dit dans ces différentes rencontres. Une fois que chacun rentre chez lui, chaque président rentre chez lui,
il n'y a plus rien.
Généralement, il n'y a pas de suivi, et à chaque fois qu'il y a des rapports qui sont faits pour poser un diagnostic pour voir qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière rencontre, on se rend compte généralement qu'il n'y a pas
de... C'est comme les multiples COP.
Exactement.
Voilà. Vous acquiescez tous. Vous partagez ce point de vue, Aziz ?
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le Burkina, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est dans chaque État, chez nous, c'est pareil. Il y a une ministre de l'environnement. Mais effectivement, une fois sorti de l'Assemblée, où effectivement il y a eu des choses qui sont mandatées, on voit pas très bien la mesure concrète sur le terrain.
Mais on a vu récemment un engouement mondial de la jeunesse qui s'est levé, comme la jeune Suédoise, la Greta Thunberg, la égérie finalement de la lutte contre le changement climatique. Que pensez-vous de ce type d'initiative de jeunes ? Est-ce que vous imaginez un jeune Africain également se lever pour cette cause?
Moi, je trouve d'ailleurs que c'est dommage que c'est pas un Africain d'ailleurs qui prenne cette initiative-là au départ, parce que on va dire ceux qui sont les plus touchés finalement, c'est nous. Mmh. C'est pas la Suède ou la Norvège ou autre, parce qu'ils sont encore bien mieux lotis que nous.
Vous êtes étudiant, Ibrahim. D'ailleurs, vous avez manifesté ou pas?
Là, malheureusement, je n'ai pas pu aller parce que pour des contraintes. Mais j'aurais bien voulu aller. Et je suis en contact avec certains organisateurs et la prochaine fois, je me rendrai.
Vous, Dougo Kolo? Les marches comme ça, les jeunes qui se lèvent. On a eu récemment une marche mondiale autour du climat.
Malheureusement, comme Aziz le disait, on a tendance à prioriser certaines thématiques à d'autres. La communauté, la diaspora africaine à Paris a marché il y a 2 semaines contre les massacres qui a lieu au Mali. C'était une grande mobilisation, ça demande de l'énergie de la part des gens, donc ils n'ont pas forcément cette disponibilité mentale et physique de se dire « Ah, il y a d'autres marches, on pourrait peut-être aller là, on peut grossir les nombres et ça peut aider le plaidoyer ». Et ça, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui, quoi, parce que on fait face aux conséquences, mais on ne s'attaque pas nécessairement aux causes de manière consolidée.
Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion, les garçons. Merci à vous, Aziz.
Merci.
Merci également à vous, Ibrahim.
Merci.
Et merci à vous, Dougoukolo.
Merci.
Et je n'oublie pas Mamadou Baldé qui est en ligne de Dakar.
Merci.
Merci à vous.
Alors, on dit quoi ? Diaranjai.
Et samedi prochain, ne ratez pas votre émission « Alors on dit quoi ?» sur RFI. Nous recevons sur ce plateau Youssou N'Dour, un artiste mondialement connu qui viendra nous parler de son engagement en faveur de la jeunesse africaine. Il évoquera également avec nous son parcours, mais aussi son nouvel album « History ».
La musique fait son domicile chez moi. Quand ça swing, je suis en santé. Je n'ai plus de problème, il n'y a plus de tabac pour moi. Je suis emporté, façon décalé. On vient pour s'enjailler, voici le son pour déconner. Musique a sonné, sonné, vas-y DJ augmenté. C'est le tololi, façon décalé. Musique a sonné, sonné, vas-y DJ, augmente. Get a money man, I see money man. Dossi son mec, moving comme une chica man. Get a money man, I see money man. Dossi son mec, moving comme une chica man.
De togolaise Sessimé.
Alors on dit quoi ?
Nous l'avons entendu depuis le début de l'émission, la terre va mal et se réchauffe. De nombreux voyants sont au rouge, une concentration atmosphérique de gaz à effet de serre sans précédent, des records de température battus année après année, des pluies diluviennes et des ouragans dévastateurs attestent que le dérèglement climatique est à l'œuvre. Notre initiative de la semaine dit stop à ce réchauffement climatique. Bonjour Boubacar.
Bonjour madame.
Boubacar, vous avez fondé P3C pour Projet Club Changement Climatique en avril 2017. De quoi s'agit-il ?
P3C, c'est Projet Club Changement Climatique. Donc nous sommes une organisation de jeunesse et de la société civile sénégalaise. Donc nous avons l'habitude d'accompagner les femmes transformatrices. Mais nous avons constaté que malgré l'accompagnement, elles font face à des phénomènes qui les dépassent. Et ces phénomènes-là, c'est principalement les effets néfastes du changement climatique. Nous avons eu l'opportunité de participer à plusieurs conférences des parties et nous avons noté dans les études une faible connaissance du phénomène des changements climatiques au niveau de l'Afrique, notamment au niveau des jeunes. Nous avons constaté que seuls 13% avaient connaissance de ce phénomène, tandis que les mêmes études montraient que 86% des jeunes Africains sont impactés par les phénomènes des changements climatiques. On s'est dit qu'il faut sensibiliser cette jeunesse-là, et c'est comme ça que nous sommes partis pour mettre en place plusieurs clubs de changement climatique dans différentes localités, pour informer les jeunes, sensibiliser les jeunes, mais les mobiliser à agir. Ne pas attendre forcément les gouvernements, parce que les communautés ont aussi leur rôle à jouer.
Alors, donc, Boubacar, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé des jeunes aussi, mais pourquoi vous ciblez les femmes particulièrement?
Elles sont souvent les plus vulnérables. Et nous l'avons constaté nous-mêmes à travers nos actions d'accompagnement, parce que nous avons un autre projet qu'on appelle projet d'autonomisation économique des femmes. Et là, nous constatons vraiment les vulnérabilités face à ces phénomènes d'inondation qui les empêchent de travailler, à la montée des eaux qui empêchent sur les espaces de travail, à la rareté du poisson qui les empêche de transformer, etc. Donc voilà pourquoi nous ciblons les femmes. Et pour les jeunes, c'est une population qui est active, une population qui a de la force, mais à force de ne pas connaître le phénomène, ils n'agissent pas, ils sont tous en attente. Et nous, on s'est dit qu'il faut les organiser, il faut les former, il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent agir, parce que c'est une frange importante de la population qui peut contribuer largement à lutter contre ce phénomène.
Alors Boubacar, vous parlez de sensibilisation. Qu'a fait concrètement le club P3C?
Alors, le club, d'abord, dans un premier temps, on est parti former des relais. On les a formés sur les notions des changements climatiques pour leur faire comprendre quelles sont les actions qui sont posées au niveau international et au niveau local. Ces mêmes jeunes sont allés recruter d'autres jeunes, et directement cette fois-ci, au niveau des localités que nous avons ciblées, elles sont 20 au niveau du Sénégal, former des clubs, des jeunes qui sont dans l'espace communautaire, que nous avons convoqués, que nous avons sensibilisés, que nous avons formés, en compagnie des services techniques de l'État, dans chaque localité, et leur donner une mission, c'est cette mission de sensibilisation des autres populations, et principalement des jeunes. Donc les clubs ont l'obligation de sensibiliser. Donc il y a une pétition qui est lancée, et cette pétition, au dernier recensement, on était à 5000 signatures, on visait 15000 signatures au niveau du Sénégal, mais aussi, ils vont agir, parce que chaque club a l'obligation de mener une action d'atténuation ou bien une action d'adaptation dans sa localité. Donc voilà comment nous voulons pousser. Et au final, ce que nous espérons, c'est l'impulsion du comportement de tous les Sénégalais pour adopter des meilleurs comportements qui sont favorables au développement durable.
Une dernière question, Boubacar, si justement vous aviez un message de sensibilisation à adresser à l'ensemble de nos auditeurs autour de ces changements climatiques et d'actions pour empêcher la Terre de continuer à se réchauffer, quel serait ce message?
Nous qui avons eu la chance de connaître ce phénomène, n'ayons pas peur ni la paresse d'informer les autres, parce que nous avons constaté encore qu'il y a une grande frange de la population qui n'est pas encore au courant, qui ne connaît pas encore le phénomène et qui pourtant... ils subissent des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer. Les gouvernements font beaucoup d'efforts, mais si la population ne comprend pas, on ne peut pas atteindre les objectifs. Je donne un seul exemple au Sénégal. Quand le gouvernement avait interdit certaines catégories de sachets plastiques, les populations certaines ont râlé. Mais pourtant, c'était pour le bien de tout le monde. Parce que les éleveurs en souffrent, finalement, toute la communauté qui en souffre.
Merci infiniment, Boubacar. Et j'espère que nos auditeurs ont bien entendu ce message. Et puis, à bientôt.
Merci beaucoup à vous aussi.
Échange avec nous sur Facebook et WhatsApp au 33 647 740 742.
À présent, dans Alors on dit quoi, on met fin aux infox qui circulent partout sur Internet. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur les réseaux en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Check. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Valdez, le Bénin est-il le sixième pays le plus heureux d'Afrique subsaharienne selon l'Organisation des Nations Unies?
Alors, c'est une information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines, une information prétendant aux Nations Unies la publication d'une étude sur le bonheur dans les pays du monde, et selon cette étude, le Bénin serait le sixième pays le plus heureux en Afrique subsaharienne. L'information a notamment été publiée par le site beninwebtv.com le 21 mars 2019, au lendemain donc de la célébration de la journée mondiale dédiée chaque année au bonheur. Le site d'information béninois cite comme source le World Happiness Report 2019.
Vous dites que cette information ne s'agit pas d'un rapport de l'ONU, Valdez ?
Si vous permettez, Diarra, très rapidement, avant de répondre à cette question, je souligne que l'information selon laquelle le Bénin est classé 6e pays le plus heureux de l'Afrique subsaharienne est avérée sur la base du World Happiness Report 2019. Le rapport cité fait le point sur le bonheur et plus précisément sur le bien-être dans 156 pays du monde. Le premier pays africain dans le classement est l'île Maurice, 57e à l'échelle mondiale, tandis que le Bénin donc est classé 102e mondial. Le bas du classement est occupé par le Soudan qui occupe donc la 156e place. Et pour revenir à votre question, Diarra, le World Happiness Report n'est pas un rapport émanant des Nations Unies. Quand vous consultez le document dès le début en dessous de sa table des matières, il est précisé que le World Happiness Report a été rédigé par un groupe d'experts indépendants agissant sur la base de leurs capacités personnelles. Toute idée ou opinion exprimée dans ce rapport ne reflète pas nécessairement la vision d'une quelconque organisation, agence ou programme des Nations Unies, peut-on encore lire dans le document. Africa Check a également contacté John Halliwell, l'un des auteurs du World Happiness Report 2019. Ce dernier précise que le rapport n'est pas une publication officielle des Nations Unies, c'est une publication du Sustainable Development Solution Network, qui est précisément une organisation onusienne indépendante fonctionnant sous la protection ou le patronage du secrétaire général des Nations Unies depuis 2012. John Halliwell a rappelé par ailleurs que les données figurant dans le World Happiness Report 2019 convoquent la responsabilité de leurs auteurs et éditeurs et non celle des Nations Unies.
Merci Valdez, et je rappelle à nos auditeurs que s'ils souhaitent en savoir plus sur ce sujet, ils peuvent consulter un article consacré à cela sur le site web d'Africa Check. Rocky Gold est définitivement le nouveau visage féminin de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Originaire de l'état de Lagos, au Nigeria, elle a vu le jour au Togo. Elle est née d'un père artiste tradit moderne nigérian, d'ethnie Yoruba, du nom de Rahimi Manchidi. Elle a passé une bonne partie de son enfance dans ce pays avant d'arriver en Côte d'Ivoire, où elle est très tendance actuellement. On écoute le titre de Rocky Gold, Copine.
Salut, je suis Rocky Gold, artiste chanteuse. Pourquoi ma copine ? Ma copine d'abord parce que je suis femme. C'est plus aisé en tant que femme de parler de problèmes qui touchent les femmes. Et à travers ma copine, c'est des conseils que je voudrais donner à mes sœurs, à moi, parce que je suis aussi concernée. Pour éviter d'être envieuse, pour qu'on puisse comprendre que le bonheur n'est pas seulement le matériel. C'est vrai que par moments, on a l'impression dans notre vie d'être en retard par rapport à certaines situations, certaines années, certaines connaissances. Mais ça ne sert à rien d'envier la vie des gens, parce que les personnes qu'on envie par moments qui souffrent, qui recherchent le peu qu'on a, et comme on ne sait pas, on passe notre temps à les envier. Et j'en parle même dans la chanson aussi, c'est une femme aisée qui a tout ce qu'on voudrait avoir en tant que femme. Grosse voiture, grosse maison, et voilà qui vit dans un luxe absolu, mais qui n'a pas le minimum. Elle a un mari absent, elle n'a pas d'enfant, mais c'est une femme qu'on va envier quand on la voit dans la rue. Donc, c'est pour que nous femmes, on puisse apprendre à accepter notre vie, à mener notre vie en fonction de ce qu'on a, avec ce qu'on a. C'est surtout être heureuse avec ce qu'on a. C'est dans cette logique que s'inscrit cette chanson. Donc j'invite tout le monde à écouter ma copine sans modération. Merci pour cette opportunité qu'on nous donne de pouvoir parler de notre nouvelle chanson. Merci beaucoup.
J'ai fait fortune mais je me sens vide. J'ai un foyer, toujours pas d'enfant. Mon mari est tout le temps absent. Aujourd'hui voici un peu ma vie. Tiens, tu as changé copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret ma copine? Oh, tu as changé copine. C'est dans cette vie là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Donne-moi ton secret copine. Regarde, regarde, mène ta vie. Tes soucis pas de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu as déjà accompli. Pourquoi vouloir être comme les autres? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Dans le
faut pas là-bas. There's nothing inside.
General Colbert.
I could enjoy my life. I could enjoy my life.
Angelo de Baba. Caris Bosson. Mélissa Badi. Capté la vibreuse.
C'était Copine de l'artiste Rocky Gold.
Zing! Oh, y'en a marre! Coup de gueule! Le coup de gueule!
Athanase du Cameroun a un message pour nous. Il prône un retour aux sources. La mondialisation, c'est bien, mais ne perdons pas nos us et coutumes, nous dit-il. Et je trouve personnellement qu'il n'a pas tort. On l'écoute.
Bonjour, alors on dit quoi? Coucou, Diarra! Moi, c'est Athanase depuis Yaoundé au Cameroun. J'aimerais lancer un appel à la jeunesse pour un retour aux sources. J'entends par là traditions, us et coutumes. Du fait de la mondialisation, au mieux de la globalisation, l'Afrique a tendance à abandonner sa diversité culturelle au profit ou alors au détriment de celle étrangère, principalement celle occidentale. Nos aïeux les ont conservées pendant très longtemps et transmise de génération en génération. La jeunesse a donc une part des responsabilités à cet effet. Elle doit donc cesser de penser que nos coutumes sont anodines, voire futiles. Nous devons juste avoir un esprit de discernement. Arrêtons de nous complexer, valorisons notre originalité à travers le monde. En effet, nous ne devons pas rester sclérosés. Nous devons plutôt nous adapter aux progrès scientifiques et techniques, mais en demeurant fidèles à nos cultures. Diarra, il faut le dire, c'est écœurant et ignoble de voir la jeunesse africaine désavouer sa propre culture. La jeunesse doit retenir qu'aucune culture n'est au-dessus d'une autre. Toutes les cultures peuvent se compléter, mais pas se substituer. Jeunesse africaine, il est temps, ravise-toi.
Et si vous aussi vous souhaitez dénoncer un mal qui mine votre pays, eh bien partagez avec nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule, un coup de gueule en vidéo de 2 minutes que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Alors, on dit quoi ? Ne rate pas une occasion de vous livrer des conseils pratiques pour améliorer votre vie. Aujourd'hui, Johan a spécialement concocté pour vous des astuces pour économiser. Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre.
Eh oui, Diarra ! Aujourd'hui, on parle du jet, on parle d'une cape, on parle de l'argent. Et je vous annonce que celui qui a dit que les riches dépensent sans compter a menti. Pour rester riche, il faut au contraire avoir une maîtrise millimétrée de son budget. Je ne suis pas une experte en la matière, mais je vais vous donner quelques conseils qui m'ont permis d'optimiser mon budget.
C'est parti, alors quel est le premier conseil ?
Maîtrisez vos sources de revenus. Est-ce que vous savez sur quelle base votre salaire a été évalué, par exemple ? Prenez le temps de vous renseigner pour comprendre comment lire votre fiche de paie et consultez-la scrupuleusement tous les mois. Si vous avez une activité annexe ou si vous êtes entrepreneur, vous devez être en mesure d'évaluer avec exactitude combien votre activité génère sur un mois.
Et ensuite ?
Ensuite, maîtrisez vos dépenses. Vous devez savoir exactement quelles sont vos dépenses fixes et variables d'un mois à l'autre. Prévoyez une enveloppe pour les dépenses variables que vous avez identifiées en début de mois. Ce mois-ci, je m'achète des vêtements et je prévois 3 sorties le soir. Attention au superflu, vous n'êtes pas obligé d'être de toutes les sorties du samedi soir. Parfois, c'est bien de se reposer aussi le week-end. N'oubliez pas de mettre de côté aussi une somme pour les imprévus. On ne sait jamais. Certains experts recommandent de diviser son salaire en trois. Un tiers pour le logement, un tiers pour les dépenses courantes et un tiers pour l'épargne. Évidemment, cela ne vaut pas pour tout le monde et les situations sont différentes. Mais si vous savez répartir votre argent et épargner une petite somme tous les mois, vous serez fier de vous à la fin de l'année.
Mais on ne peut pas toujours épargner, Joanne.
Mais si, bien sûr que c'est possible. Nous avons tous des vies compliquées entre les multiples dépenses, les charges, les imprévus, les dettes. Et on a tendance à penser que quand on est endetté, on ne peut pas épargner. Mais c'est faux. Votre épargne, c'est votre vrai salaire lorsque toutes les dépenses nécessaires ont été faites. Vous devez vous rémunérer vous-même avant de penser à payer les autres. Fixez-vous une somme raisonnable que vous vous attribuez tous les mois en dépit des contraintes financières. Cette somme pourra évoluer si votre situation évolue.
Un dernier conseil ?
Dernier conseil ? Investissez. Économiser, c'est bien, mais il faut que cela vous serve à quelque chose. L'argent que vous avez mis de côté doit vous permettre d'investir dans une activité qui va générer encore plus d'argent. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'immobilier, un taxi de ville ou alors un fonds de commerce. Les possibilités sont nombreuses.
Merci Joanne. Et Anna est également avec nous et cette fois, elle nous parle d'une expo photo à Conakry.
Exactement Diarra, et je vous invite à découvrir une exposition de photos de la photographe Sabine Diakité qui est exposée au Centre culturel franco-guinéen de Conakry. Marquez bien vos calendriers, chers auditeurs qui êtes à Conakry, car vous avez jusqu'à fin avril pour en profiter.
Génial. Alors, dites-nous en plus, Anna.
Alors, la série de photos s'intitule « Photographie guinéenne ». Sabine Diakité est née d'une mère allemande et d'un père guinéen. À la naissance de son premier enfant, la transmission de son histoire plurielle, de ses origines métissées, devient nécessaire et c'est la photographie qui devient son moyen d'expression. Elle entreprend une vie familiale en Allemagne, mais séjourne très régulièrement en Guinée. Si la photographie est une expérience visuelle en général, pour Sabine Diakité, elle est surtout une aventure humaine. La rencontre avec l'autre en est donc le principe fondateur. Rencontre et partage se font pour beaucoup autour de la couleur, qui est aussi question d'identité pour la photographe. Sabine donne à voir la beauté du grain d'une peau noire, de la palette des peaux, du clair au plus foncé, du plus lisse au plus ridé des hommes. Elle regarde ses peaux par exemple au travers de son objectif, comme si elle découvrait un matériau. Elle transpose alors son regard, sa technique au plus près, et photographie les paysages de la Guinée, par exemple, comme si elle rentrait dans la terre, dans l'eau ou encore dans les montagnes. Le pays devient homme et femme. Le paysage se transforme en matière vivante et la technique du photographe devient enfin un symbole de l'interaction des hommes et de la terre, d'une identité commune.
Quelques infos à nous ajouter, Anna ?
Exactement, je vous invite à visiter le site internet du Centre culturel franco-guinéen afin d'y découvrir les heures de visite de cette exposition.
Merci Anna.
Je vous en prie, Diarra.
Tic-tac, tic-tac, l'heure est à nos trousses. Alors on dit quoi, c'est déjà terminé. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, un samedi spécial artiste engagé. Nous serons en effet aux côtés de Youssou N'Dour. Le célèbre chanteur viendra nous parler de son engagement en faveur de la jeunesse africaine. Et bien sûr, on attend vos réactions. Dites-nous de quoi vous avez envie de parler. Partagez et likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Et pour réécouter l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RFI, sur notre SoundCloud ou même sur Google Podcast. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci également à toute l'équipe de l'émission. Sans elle, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Merci à Beverly, Mariam, Claire, Dibril et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. Salut, Rangongol, à bientôt.